point de conscience à l'horizon.
Mais malgré ces découvertes spectaculaires, les scientifiques reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'ont pas touché au but, loin de là. Ils s'en sont approchés, comme jamais auparavant, grâce aux techniques d'imagerie cérébrale. Mais des énigmes subsistent. La principale étant que non seulement nous sommes conscients du monde extérieur et de notre monde intérieur, mais nous sommes aussi conscients que nous en sommes conscients. Selon l'expression de Stanislas Dehaene dans Le Code de la Conscience,
il existe très certainement, dans le cerveau humain, un système qui permet de retourner le projecteur de la conscience sur lui-même et d'analyser ses propres pensées.
Mais où se cache-t-il ? La science du cerveau, ayant fait énormément de progrès ces dernières années, et surtout ayant dépassé le cadre purement électrique de l'activité du cerveau pour prendre en compte des fonctions plus évoluées et plus nobles, on pouvait penser que la question de la conscience était réglée, ou presque. En tout cas, on avait parfaitement analysé les mécanismes qui donnaient naissance à notre conscience, même si le doute subsistait sur l'identité de l'instance à qui ces informations étaient destinées. Mais on se disait qu'on était sur la bonne voie et qu'on finirait bien par le savoir. La conscience semblait donc un phénomène globalement bien cerné par la science. D'ailleurs, les scientifiques pouvaient eux-mêmes utiliser ces connaissances pour créer des comas artificiels, bien utiles dans le traitement de certaines maladies. On pouvait même créer des pertes de conscience, comme dans les anesthésies, pour éviter aux patients de souffrir. Bref, avec quelques poudres de perlimpinpin, on pouvait contrôler l'état de la conscience d'un individu. Tout cela était d'ailleurs perçu comme une preuve supplémentaire de la nature purement physique de la conscience, et surtout de sa liaison avec le cerveau. D'ailleurs, chacun, je pense, a pu faire l'expérience qu'en absorbant certaines substances, du simple verre de vin à la drogue la plus dure, notre conscience se trouve altérée à des degrés divers. Nous savons aussi que certains accidents de la vie peuvent atteindre le cerveau et endommager certaines zones, modifiant notre conscience et l'idée que l'on se fait de soi-même. Et bien sûr, je me dois de parler des maladies dégénératives comme Alzheimer, qui altèrent tellement le fonctionnement du cerveau que l'individu finit par oublier qui il est. Toutes ces pathologies du cerveau, et je n'en ai évoqué que quelques-unes ici, donnent fortement à penser que le sort de la conscience est scellé avec celui du cerveau. Conscience égale cerveau. Pour l'étonnant de l'idée que la conscience est une émanation du cerveau, les faits sont imparables. Pas de cerveau, pas de conscience. Inutile de chercher où elle se cache, elle est dans notre tête. Mais prenons une image. Tous les matins, vous allumez votre station préférée, disons RTL, ou Europe 1 si vous préférez, ou Fun Radio, peu importe. Une station de radio lambda. Les plaisanteries douteuses des animateurs entre deux malheurs du monde vous mettent de bonne humeur. Et puis un beau jour, un sale jour en fait, vous laissez tomber votre radio par terre. Vous n'étiez pas bien réveillé, le sol était glissant, vos nouvelles pantoufles accrochaient moins bien au carrelage de la cuisine. Catastrophe. La radio est en piteux état, et comme dirait Bourvil, forcément, elle va moins bien marcher maintenant. Effectivement, maintenant, elle vomit des sons à peine audibles. Est-ce que pour autant, votre station préférée est morte ? Bien sûr que non. C'est juste le récepteur qui est endommagé. Mais la station, elle, fonctionne toujours parfaitement. Certaines personnes pensent que la conscience obéit à la même loi. Le cerveau serait en fait une radio qui capte la conscience, laquelle est indépendante. La radio peut certes être défectueuse, la conscience, elle, n'est pas altérée pour autant. Cela dissocie la conscience du cerveau. La conscience n'est pas dans le cerveau. L'idée n'est pas récente. Si l'on revient un peu en arrière, au début du XXe siècle, on constate le développement inattendu du mouvement spirit. Les esprits sont à la mode. On les invoque, on les fait parler. On organise de grandes soirées à frissons en s'asseyant autour de tables qui tournent. Les esprits des morts semblent vouloir délivrer des messages aux vivants et répondre aux questions restées en suspens par leur décès. « Où as-tu caché les bijoux ? On ne les retrouve plus. Vraiment, tu es mon père ?» Bref, tout ce qu'on ne s'est pas dit du vivant du défunt, on charge les tables de nous le dire en tournant. Ce courant spirit va naturellement avancer l'idée que la conscience des individus n'est pas liée au cerveau. La mort peut bien couper le courant dans le cerveau, la conscience, elle, continue d'exister et mène une nouvelle vie. C'est un retour à l'idée que la conscience, c'est l'âme, et que l'âme survit à la mort physique. Une manière d'enfoncer le clou, le physique et le mental n'ont rien à voir, l'un meurt, l'autre pas.